Vivre en commun, l'émission de radio.
Vivre en commun, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en commun,
sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en commun, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout, tout sur le Comminges.
Nous allons maintenant passer à notre premier sujet du mois sur les nouveaux compteurs EDF, alias les compteurs Linky. Et donc Christophe, tu vas nous parler un petit peu de ça, et en commençant par l'origine de ce projet qui est à quelques années déjà.
Donc il a été lancé en 2007. C'est le premier distributeur français, donc ERDF, qui s'occupait donc de ça, parce qu'en fait c'était l'Union européenne qui a demandé à ce que l'on puisse déployer donc des compteurs électriques communicants.
Alors ERDF, c'est qu'il y a EDF qui produit l'énergie et ERDF répartit l'énergie, c'est eux qui s'occupent des pylônes.
Qui est le premier distributeur français, oui.
Qui répartit l'énergie des centrales de production jusqu'au foyer.
Oui, tout à fait. Ensuite, ERDF a demandé à la commission de régulation de l'énergie, qui s'appelle la CRE, de constituer un groupe de travail. Pour cela, ils ont pris avec eux la CNIL, qui est la Commission nationale de l'information et des libertés, et également l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
C'est eux qui font des campagnes sur les économies d'énergie, notamment.
Oui,
qui financent.
Mais il y a quand même eu, dès le départ, non pas des couacs, mais des choses qui sont un petit peu normales, c'est qu'il y a eu des petites mises en garde. Et c'est souvent c'est la CNIL en fait qui a mis en garde et qui demandait des garanties assez sérieuses sur la confidentialité des données, compte tenu du fait qu'à terme ces compteurs ont la capacité en fait d'avoir de récupérer beaucoup d'informations, et ces informations le contenu est assez
personnel,
très personnel, parce que ils ont la capacité en fait de savoir
sur un temps et un heure, toute la consommation énergétique, électrique.
Donc
de savoir très précisément ce qui se passe dans les domiciles.
Dans les domiciles, ouais. À savoir que chaque source, un réveil par exemple, émet une signature. Et cette signature, ils sont capables de la décrypter. Donc de savoir quel appareil fonctionne, à quelle heure il se met donc en fonction, et donc avec ça ils peuvent rentrer dans la vie intime des gens. Et
sans compter que ça constitue aussi des fichiers commerciaux qui peuvent être revendus à d'autres prestataires, d'autres fournisseurs d'énergie.
C'est-à-dire s'ils détectent que ta machine à laver tourne pas rond, d'envoyer de la pub pour t'en proposer une, c'est...
Va savoir.
Donc ça c'est un peu les conséquences, mais pourquoi ça a été mis en place? C'est le but ça de pouvoir...
Non, le but n'est pas là. C'est évident que le but n'est pas là. Par contre, l'investissement a été estimé à 5 milliards d'euros de la part du RDF. Et la CRE a défini en fait un cadre tarifaire à adapter afin de répartir le temps de dépense et les faire coïncider avec les gains prévus par l'installation des compteurs.
Donc l'idée est de faire des gains...
Voilà. Et donc selon RDF, la généralisation du compteur Linky donc permettrait... D'un côté, donc pour le gestionnaire du réseau, une réduction des coûts de gestion. Pour le fournisseur, une réduction des fraudes et des réclamations. Une plus grande richesse d'informations permettant de proposer aux clients de nouvelles offres. Et pour le client, l'avantage que l'on en tirerait, c'est des factures donc établies systématiquement sur leur consommation réelle. Des interventions effectuées sans intervention à l'intérieur du domicile et sans prise de rendez-vous. Donc voilà un peu le pourquoi le projet est né. Il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont été menées par le CNRS et d'autres organismes qui ont établi que avec cette technologie-là, on avait la capacité de réduire un tout petit peu les coûts énergétiques. Et donc les statistiques ont montré qu'on était pour les plus optimistes aux alentours des 15% d'économie d'énergie, ce qui est assez important. Et les moins optimistes sont à 1%, voire nul.
D'ailleurs, parce que ça permet de savoir en temps réel quelle est la consommation et puis de pouvoir, j'imagine, après faire des estimations sur à court terme de quelle va être la consommation, quoi.
Oui, voilà. Oui.
Bon, la problématique est un peu la production d'énergie. Voilà, quand la centrale nucléaire allait démarrer, ça change pas grand chose que.
L'histoire, c'est de pouvoir ajuster éventuellement les productions sur des pics, comme en hiver. Et voilà là, l'un des principaux arguments, et donc de s'ajuster de façon à ne pas être en deçà des besoins énergétiques, notamment l'hiver ou au moment des pics de consommation. Après, moi, je pense aussi qu'on va s'acheminer vers une mensualisation éventuellement.
Et c'est ça. C'est aussi ce que je crains. Oui.
Voilà, au lieu d'avoir de recevoir sa facture, comme beaucoup qui payent deux fois par an.
Tous les deux mois ou
deux fois par an. Effectivement, on peut généraliser, on peut penser qu'ils vont généraliser la mensualisation. On peut aussi penser qu'il va y avoir du dégraissage chez RDF pour les contrôleurs.
C'est sous-traité. Moi, quand le contrôleur, c'est pas EDF, c'est pas RDF.
Mais ça reste un contrôle humain, une activité humaine, oui, qui va disparaître, forcément. Et c'est à mettre en perspective avec 5 milliards d'euros qui sont investis, ça fait 35 milliards de francs, c'est colossal, c'est proprement colossal. Alors, industriellement, ça va relancer une forme d'économie par la production et l'installation de ces nouveaux compteurs. Mais on peut se poser la question de savoir si combien de temps on pourrait financer le contrôle humain qui va disparaître, quoi. Donc des emplois qui vont disparaître.
Tout à fait.
Définitivement.
Avec le peu d'économie par rapport à notre système de production actuel, l'économie d'énergie, je la vois pas trop, et
on peut se demander aussi une grande dépense d'énergie, en tout cas, pour cette installation. Ouais.
Peut se demander où sont fabriqués ces compteurs aussi, qui et à qui ça va profiter, parce que le vrai pactole, c'est quand même les installateurs et les. Mmh. J'imagine que les installateurs, ça va pas être, des EDF ni ERDF, comme avec
Si, certainement, ERDF, oui.
Oui.
ERDF,
quelques années qu'ils sont formés pour ça, justement, et là, ils se mettent en action parce que justement.
Ils vont pas avoir le monopole.
Je sais pas.
Comme ils ont les réseaux, comme ils doivent entretenir les réseaux, normalement, ce sont eux jusqu'à chez le particulier qui installent les compteurs. Très logiquement.
Ouais.
Après, est-ce qu'ils vont se faire appel à des sous-traitants?
Oui, je pense, oui. Ça, je pense.
Voilà. Ouais. Ce sera sous leur contrôle, de toute façon, sous leur autorité.
Ouais.
Après, 5 milliards, c'est colossal, quoi. Pour les industriels, une enveloppe de 5 milliards d'euros, c'est proprement colossal, et ça va se répercuter forcément sur le prix de l'énergie, qui a déjà augmenté de 30%, avec la Commission européenne.
Oui.
Il y aurait peut-être des choses mieux à faire avec ces 5 milliards sur les économies d'énergie.
Oui, mais bon, il y a des gens qui pensent pour nous, je crois. Non. Donc,
ou la production d'énergie.
Laissons faire.
Changer les méthodes de production d'énergie avec 5 milliards, il y a moyen d'en faire pour nettoyer les centrales nucléaires qui sont plus très aux normes.
Le malheur, c'est que la France en a fait sa politique, quoi. Donc une politique de centrales nucléaires qui revendent, et la meilleure manière de vendre, c'est de montrer qu'on y adhère. Donc le malheur, c'est que on est dedans. On a les deux pieds dans la merde et on chante bien haut, mais c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Oui.
Donc ça, c'est cette première, c'est l'enjeu de ces compteurs un petit peu, mais il y a autre chose derrière tout ça, c'est l'aspect technique de qu'est-ce que ça va être ces compteurs et des technologies qui sont employées qui là posent un autre problème qui n'est pas de l'ordre de la production ni des économies, etc., mais qui est plutôt de l'ordre de la santé. On se demande quelles pourraient être les conséquences sur la santé de ces technologies en temps réel de
ces informations.
D'informations en temps réel sur les compteurs.
Alors, donc, la technologie employée pour la transmission des données, ces compteurs étaient capables, ou en tout cas, il y a deux technologies qui sont assez différentes.
Ils sont utilisés dans plusieurs pays dans le monde, parce qu'on n'a pas les précurseurs dans ce domaine-là. Il y a plein de pays qui ont déjà mis en place ce genre de système.
Anglo-saxon, non ?
Oui.
Le nom bien français du système.
Les États-Unis, en fait, c'est Barack Obama qui avait, il y a 4 ans, voire 5 ans, qui avait non pas cette idée, parce que je pense qu'elle lui a été un peu soufflée, mais qui a mis en place ces compteurs, en tout cas avoir une gestion des compteurs à la seconde. Le Canada a emboîté le pas, et ensuite la Communauté européenne donc à je pense, avec l'aide de pas mal de lobbies, ont insufflé ça en Europe. Et l'Italie a été le premier pays européen à s'y être mis. Donc l'Italie est quasiment entièrement installée par ses compteurs. Et donc chaque pays européen utilise deux techniques. Voilà, pour être plus pertinent, il y a deux technologies, donc je vais essayer de les définir. Il y a donc le CPL, qui est la technologie employée par courant porteur. Pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le courant électrique en Europe est sur 50 Hz. Aux États-Unis, c'est 60. Donc ça, c'est la fréquence, 50 Hz. Et donc, sur ce courant porteur de 50 Hz, ce compteur va être capable d'envoyer des petites impulsions toutes les 2 à 5 secondes, des petits signaux haute fréquence, de faible énergie, et d'une fréquence de 1,6 MHz à 34 MHz. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas du compteur Linky. Donc c'est le compteur que l'on aura en France. Après, il y avait une autre possibilité.
Donc les compteurs français utiliseront cette
technologie-là.
C'est ce qu'on a un peu aussi sur les... Quand on veut avoir Internet dans toute une maison, on peut brancher, on peut brancher sa box ou son modem sur le réseau électrique et à partir de chaque prise électrique, récupérer l'information. C'est un peu ce même genre de données, de système.
Complètement. L'intérêt, c'est que en fait, on utilise les lignes déjà existantes en courant alternatif. Donc pour la lumière, pour les prises de courant, pour donc les lignes DF qui sont actuellement en place vont être utilisées pour passer ce signal, pour passer ces informations.
D'ailleurs, il y a une époque, ça doit être dans les années, enfin d'après-guerre, quoi, où il y a eu un choix technique aussi par rapport au téléphone et aux lignes électriques. On aurait pu faire passer le réseau téléphonique par le réseau électrique. Et il a été choisi de faire deux réseaux indépendants, deux lignes indépendantes, deux réseaux de poteaux aussi.
D'accord. Ça aurait fait quand même beaucoup moins de poteaux et de câbles qui traversent
Un des avantages, c'était que vu que l'électricité est plus importante, il n'y avait pas besoin de...
Il n'y avait pas de perte
et il n'y avait pas besoin
de reconditionner le signal.
De retransformer, de réamplifier le signal.
Okay. Alors l'autre technologie qui n'a pas été retenue donc par ERDF, c'est par ondes radio. Donc c'est des ondes qui sont aux alentours des 800 Hz. Mais à savoir quand même, c'est que là nous allons parler du compteur Linky parce que c'est actuel, hein, elles sont déjà en train d'être installées. Mais il y a aussi les compteurs à gaz et à eau qui incessamment sous peu vont être installés également. Donc pour le gaz, ils ont trouvé un joli petit prénom. Le compteur s'appelle Gaspard. Il lui sera sur 900 Hz et il serait envoyé par GPRS. Donc lui utiliserait les ondes radio pour être utilisé.
Et oui, ce coup-ci, il n'y a pas de courant porteur.
C'est ça.
Donc ce serait des ondes radio.
Tout à fait. Et l'eau, dans la foulée, un an ou deux après, devrait suivre. Donc on aurait trois compteurs qui seraient, eux, communicants. On emploie, on galvaude un petit peu le mot intelligent parce que c'est le nom qu'on leur donne, mais on va peut-être s'abstenir de les appeler compteurs intelligents. Courant, communicant me semble assez pertinent. Donc l'eau et le gaz, donc ça sera certainement des ondes radio, aux alentours de 800 et 900 Hz. Et donc le compteur qui nous intéresse là, oui Angelo.
C'est-à-dire ils vont communiquer avec qui ces compteurs?
Eh bien ils vont communiquer jusqu'à un relais, jusqu'à une borne. Donc la borne, il faudrait qu'elle soit pas trop éloignée. Donc ce sera non pas des bornes relais de télécommunication de style téléphone portable, etc. Ça sera encore de nouveaux relais. Donc on va encore multiplier les relais, on va multiplier les ondes qui nous entourent.
Donc là, c'est des arguments...
C'est nouveau, ça vient de sortir.
C'est la même argumentation, c'est pouvoir faire de la consommation en temps réel et faire des factures plus justes et...
Oui, c'est ça.
Plus juste aggraver du prix de l'installation des nouveaux compteurs.
Oui, mais c'est ça le malheur. C'est que... Voilà, on n'a plus qu'à regarder, quoi. C'est ça qui est un peu dommage.
À subir,
subir. Ouais, tout à fait.
Et du coup, ils ne vont pas se mélanger, tous ces compteurs-là? Ils ne vont pas s'embrouiller les uns les autres?
Ben, ça sera... ça sera la technologie employée qui nous dira si ça fonctionne bien ou pas. Après, pareil, hein, sur le CPL, donc la technologie que Linky emploie, il y a énormément de données qui vont être transmises sur les câbles électriques, et il y a le risque aussi de brouillage. Il y a le risque que les informations ne soient pas complètement justes. Donc c'est quand même ce qu'on recherche lorsqu'on met cette technologie en place. Et le malheur, c'est qu'on va se retrouver peut-être avec des petites interférences, des petits problèmes. Et c'est ce qui a été constaté aux États-Unis et au Canada. C'est qu'il y a des factures qui ne correspondaient pas à la consommation des utilisateurs.
Ah oui, c'est-à-dire... C'est ça.
Donc la technologie, elle est au point, mais jusqu'à un certain point.
Ouais. Des brouillages qui sont dus à quoi ? Des machines qui interfèrent oui. dans ce réseau de communication ?
Oui, et puis la quantité d'informations. Tu imagines un appartement... On a tous des appareils de brancher, la chaîne IFI qui est branchée, même si elle n'est pas en fonction, il y a toujours la veille qui est là. Donc elle a un signal, il y a des informations, et toutes ces informations vont être transmises par Linky. Linky va transmettre une quantité en kilowatts de l'énergie donc, qui est utilisée, mais va aussi, de par les signaux de chaque source, elle va être transmise aussi sur Linky.
Ce qui fait qu'il y a une perturbation due au fonctionnement des appareils en eux-mêmes. Quoi.
Oui, tout à fait. Puis une grande quantité d'informations que l'appareil qui va recevoir tout ça va devoir gérer.
Moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette affaire-là, c'est que c'est le consommateur donc, qui est en bout de... le particulier, qui est en bout de chaîne, à qui on va demander de financer une opération gigantesque, 5 milliards d'euros, on ne sait pas sur combien d'années, on ne sait pas comment ça va être répercuté sur le prix de l'énergie et de la consommation. Et on se retrouve obligé, et ça me fait penser un peu à la fiscalité locale et à ce qui s'est passé par exemple pour Aurignac, c'est à se demander même s'il ne faut pas engager à un moment donné, parce que ça se retrouvera sur le prix de l'énergie, ça se retrouvera sur les factures d'électricité, d'eau et de gaz, l'électricité qui a déjà pris 30% pour des raisons de concurrence alors qu'on produisait l'électricité la moins chère d'Europe, et aujourd'hui il a fallu s'ajuster pour des raisons économiques, commerciales, et on paye. Et je me demande dans quelle limite on ne peut pas contester comment il y a
la légitimité de l'installation de ce projet, l'intérêt pour l'ensemble de la population. Quoi.
Voilà, le surcoût, rien que pour dire que nous, quand même, on existe, que ce sont des mesures qui ont été pondues par des énarques et par des lobbying et qui viennent une fois de plus des pays anglo-saxons, parce que finalement, c'est ça, l'Europe, c'est la terre promise des anglo-saxons. Et nous, on est à la traîne, on va encore s'endetter, on va encore payer des choses dont on ne sait rien. Et c'est à se demander même si il ne faudrait pas contester systématiquement l'augmentation, la part d'augmentation qu'il va y avoir sur ces opérations-là, uniquement pour les freiner sur des contentieux.
Oui, quoi, la rentabilité du système n'est pas du tout...
Mais c'est pas du tout prouvé.
Et en plus, pas l'intérêt du système même de faire vraiment que ce soit rentable.
Ah, mais l'intérêt, ce serait de préserver... L'intérêt, ce serait de préserver l'activité humaine qui est autour de ça, qui est la relève des compteurs. Effectivement, c'est une activité humaine. Derrière, il y a des emplois qui vont disparaître. Pendant un moment où il va y avoir une manne, où il va y avoir des emplois...
Pour
installer. Mais après, c'est terminé. Et les gens qui étaient chargés de faire cette relève, qui était une activité humaine à part entière, ces emplois-là vont disparaître à jamais.
On peut se poser aussi la question de la durabilité de ces compteurs, et puis aussi de la fiabilité. Quoi. Du coup, c'est ce que tu posais un peu comme question. Oui. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des ondes, les téléphones, le Bluetooth, le machin, la 3G,
c'est vrai que si
le compteur
rajoute,
truc, le compteur bidule,
on rajoute,
la radio, la télé.
On rajoute 2 ou 3 grammes d'obsolescence programmée dans ces compteurs. Ouais. Voilà, et tous les 3 ans, à la limite, ça me fout 5 milliards d'euros. Quoi.
C'est pas mal. Pour l'économie, au moins, ça fait tourner l'économie.
Ah, mais ça serait dans la tendance actuelle, ce qui est absolument scandaleux. Quoi.
Oui, parce que des compteurs, y en a des anciens dans les maisons, ça tourne toujours. Quoi,
qui perdurent. Qui ont 50 ans, mais qui perdurent.
C'était quand même du costaud. Quoi. Il y en a qui sont d'origine des installations.
Mais c'est ça qui doit les ennuyer, surtout. C'est ça qui doit leur créer un problème. Ouais. Hein, parce qu'effectivement, changer, c'est combien de millions de compteurs en France ? 10, 15, 20, 30, 50 millions de compteurs, ça va être cet ordre-là. Quoi. Et c'est bien ça tout le problème. Hein. Moi, je pense que c'est avant tout un enjeu industriel pour des lobbies. Ça va permettre en même temps de nous en foutre une couche de plus. Et c'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux parce qu'il n'y a pas le besoin.
Et c'est, on peut se poser la question du piratage de ces compteurs, c'est-à-dire de l'influx et de pouvoir éventuellement, d'une part, modifier les consommations et d'autre part, de l'impossibilité de pouvoir contester ces compteurs. Et...
Mmh, bien sûr. Ben, concernant les données personnelles qui circulent sur le réseau CPL, il faut savoir que le gestionnaire est en mesure de connaître vos faits et gestes. En effet, chacun des équipements électriques ont une signature électrique différente. Et à chaque allumage, donc, cette signature peut être retrouvée en temps réel. Il suffit que le gestionnaire analyse votre consommation et à ce moment-là, donc, il a la capacité de voir un petit peu tout ce qui fonctionne donc, chez vous. Donc, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais tu parlais des informations. On nous assure que les données ne se retrouveront pas dans la nature ou justement qu'elles ne soient pas vendues pour des sociétés tierces, des entreprises, etc. Voilà, donc, et puis après,
on nous le garantit, mais il n'y a pas de dispositif pour ça.
Voilà, donc en fait, il peut y avoir des failles, évidemment, comme dans tout système, hein, comme toute technologie. Ça peut aller, donc, parce que le cryptage pour ces informations-là sont assez faibles. Et puis pareil, il y a aussi un problème aussi par rapport à la sous-traitance. C'est-à-dire que les gens qui vont travailler avec ce système-là, qui vont avoir les informations de ce système-là, il peut très bien y avoir une brebis galeuse, il peut très bien y avoir quelqu'un qui récupère ces informations-là, étant donné que c'est de la sous-traitance. Je veux dire, c'est RDF, c'est pas quatre personnes qui s'en occupent. Quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'employés, beaucoup de sous-traitants. Il y a beaucoup de questions quand même à se poser par rapport à ça. Et aussi la corruption des données collectées. Et puis, chose qui est assez récente, c'est tout ce qui est attaque de hackers qui ont été, là en l'occurrence, identifiés est reconnu par le gouvernement américain, parce que les Américains, donc là, sur cette technologie-là, ont 5 ans d'avance. Et donc, ils ont identifié donc, des hackers qui, en permanence, pirataient le site et récupéraient des informations. Il y a aussi quelque chose de je ne dis pas plus grave, mais d'une autre nature peut-être, qui est le cyberterrorisme, donc, qui pourrait être amené à éteindre les compteurs à l'échelle du pays.
Bien sûr. Ou s'attaquer à une cible en particulier.
C'est
et
ça.
Via le réseau électrique, en fait, il pourrait contaminer n'importe quelle structure, même des structures inatteignables par le réseau téléphonique ou la fibre optique, qui eux ont des niveaux de cryptage très très élevés. Et là, uniquement depuis une prise électrique, on pourrait très très bien attaquer, paralyser la défense, par exemple, ici, la tour de la défense à Paris, on pourrait très bien l'isoler.
Tout à fait,
Et la paralyser.
C'est
quoi.
Ça, exactement.
On peut envisager ce genre de choses.
Exactement. Chose. Donc, à un moment donné, enfin, je veux dire, on parle de compteurs...
Y compris avec l'eau, d'ailleurs. Hein. Y compris avec l'eau ou le gaz. Hein.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ces technologies permettent aussi, j'imagine, de faire des coupures à distance quand il y a un non-paiement
ou bien sûr.
On coupe directement, il n'y a aucun interlocuteur et puis il n'y a aucune contestation possible.
Même si tu as payé, il suffit qu'il y ait une erreur informatique.
Oui, c'est ça. Bah, là, j'avais récupéré un petit... En faisant ce petit sujet-là, j'avais une petite pensée pour deux philosophes, mais bon, là c'est le petit moment un peu culturel, mais j'avais deux philosophes qui me revenaient en tête, et il y avait un philosophe que j'aimais beaucoup qui s'appelait Gilles Deleuze, et un autre qui s'appelle Michel Foucault, et en fait ils avaient théorisé les sociétés souveraines, les sociétés disciplinaires et les sociétés de contrôle. Et donc ce dispositif était assez caractéristique des sociétés disciplinaires et de contrôle dont parlait Michel Foucault. C'est dans les années 70, voire 80, à la fin de sa vie. Et pareil aussi, une petite notation aussi comme ça, c'est que Jeremy Bentham avait inventé le panoptique, qui était une manière de contrôler les détenus en Angleterre. Et donc c'est une espèce de forme où on se retrouve, vous voyez, une fleur de marguerite, une fleur, on va dire, avec le bouton floral au milieu, et tous les pétales autour. Et alors, en fait, cette forme-là permettait de se situer, donc il y avait quelqu'un qui se situait, un gardien qui se situait au niveau du bouton floral, et qui avait la visibilité sur tous les détenus qui étaient dans des cours, qui étaient tout autour d'eux. Donc en fait, il y avait une personne qui gérait tous les détenus. Et donc c'était
il y a une bonne comparaison avec un univers carcéral, finalement, et en plus un univers carcéral mais injuste qui peut être totalement arbitraire Et de par justement le fait de la panne, le fait de l'usure, le fait de où l'individu c'est Brésil quoi en fait. En ce moment où on est en pleine perquisition administrative totalement abusive pour certaines d'entre elles quoi. Je veux dire c'est du délire absolu quoi. Ouais, et quoi, on peut penser aux philosophes, mais on peut penser aux auteurs de science-fiction ou de littérature comme ça d'anticipation. Et on est en plein là-dedans quoi. Et en plus, on ne sait pas pourquoi l'utilité, c'est ça. C'est quel besoin ?
C'est ça le problème.
Pour qui ?
Ça me fait penser un peu à la société du contrôle à tout va, récolte d'informations à tout va. On contrôle beaucoup, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose. Oui. Je vois, ça me fait penser souvent au réseau d'eau. On voit l'agence à Dour-Garonne met en place un réseau d'eau. Tant de contrôle, etc. Quoi. Ouais, mais c'est mettre beaucoup de contrôle et puis qui servent à rien. Quoi. On détecte une pollution, on voit que toutes les rivières sont polluées et on dépense beaucoup d'argent à faire des contrôles pour au final ne pas agir. Quoi.
Mais pour en revenir à cette histoire-là d'installation de compteurs.
Ça fait des statistiques.
Voilà, aux États-Unis, où ça a été lancé donc, depuis 5 ans, mais effectivement, les 20 familles les plus riches. Qui pèse 750 milliards, ils ont annoncé, ça correspond aux 150 millions des familles les plus pauvres des États-Unis. Mais en fait, on va vers ça, puisque là, nous, on n'en a pas besoin de ce compteur. Ceux qui vont en avoir besoin, ce sont ceux qui vont faire du commerce dessus, qui vont faire du gain dessus, et qui vont s'enrichir. Et nous, ça va nous appauvrir encore une fois. Alors, même si c'est infinitésimal, si ça va être des centimes d'euros multipliés par des millions, c'est une façon encore de capter des choses, de les tirer vers le haut et d'amasser des fortunes vers le haut. Toujours pareil. Comme aux États-Unis où voilà, on est vraiment dans le modèle anglo-saxon.
C'est, modèles,
quoi.
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça qui est phénoménal.
Tout à fait. Alors, pareil, donc, il y a aussi un problème au niveau juridique et au niveau de la réglementation. Parce qu'il faut savoir que cette technologie, donc c'est une nouvelle technologie, qui travaille donc sur les bandes de fréquences. Et donc, cette technologie-là doit rentrer dans un cadre juridique. Et donc, les réseaux CPL sont à la fois des réseaux électriques et des réseaux de télécommunications, ce qui sont deux choses bien distinctes. Ce qui fait que les autorités ont du mal à définir leur cadre juridique. De plus, il n'existe pas encore de réglementation précise pour les équipements et les réseaux CPL. Donc. Et donc, là, sur Internet, j'ai fait quelques petites recherches et donc, on y travaille.
Ils deviennent opérateurs de télécommunications.
C'est ça, voilà. C'est ça.
En plus d'être opérateurs au niveau de l'énergie, ils deviennent opérateurs en télécommunications.
C'est quand même pas mal, hein.
Oui, c'est intéressant.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont pouvoir se mettre en
concurrence avec la fibre.
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être un retour du...
Oui,
les sociétés de gaz vont se remettre... On va en avoir partout, quoi, du réseau. Et tous les sous-traitants, ça me faisait penser l'histoire des sous-traitants là au réseau. L'autre coup, j'étais chez le médecin, là, il me disait il a un nouveau logiciel de collecte de données, quoi, pour ficher ses patients, quoi. Il disait oui, alors là, c'est en réseau aussi avec d'autres médecins. C'est une entreprise qui sous-traite ça, et suivant le sous-traitant, il peut être mis en réseau avec un autre réseau de médecins ou de centres de radiologie ou d'analyse, etc., quoi, qui sont des sociétés privées, en fait. Le fabricant de logiciels et qui met en réseau ces différents fichiers sont des choses privées. Alors on nous dit oui, la carte vitale elle est anonyme, etc., c'est un réseau à part, et puis à côté ils ont un réseau
de collecte,
par des privés de collecte qui est à côté, et il était tout content de me faire voir son logiciel. Là, c'était sa problématique du moment, c'était la nouvelle installation de ce logiciel, quoi.
Voilà, la problématique,
ça dérive,
la problématique devient plus finalement le traitement des données que le patient lui-même, et c'est un peu ce qu'on assiste avec la machinisation de la société, la machine qui est en train de devenir reine finalement, qui prend le pouvoir. Combien de temps a-t-il consacré à son logiciel et combien de temps a-t-il consacré à toi en tant que patient? C'est ça qu'il faut regarder en fait.
Oui, parce que ça va s'accumuler à tout un tas d'informations qu'on reçoit déjà. Le compteur, j'imagine qu'il va y avoir un petit écran et qu'il va y avoir des données sur le compteur.
Oui, c'est ça. C'est un écran.
Tu me parlais aussi de genre de possibilités après commerciales, d'ajustement des forfaits.
Alors, par contre, oui, ERDF, dans très peu de temps, vont nous faire des offres au niveau des forfaits. Ce qui fait que ben, je pense que c'est là-dessus qu'ils vont aussi récupérer un peu d'argent, parce qu'on va remettre tout à plat et puis on va proposer des forfaits. Donc il y aura des forfaits qui seront, d'après ce que j'ai vu, il y aura une dizaine de forfaits. Certains seront intéressants parce qu'on utilise l'énergie, enfin pour les familles qui utilisent l'énergie le soir, d'autres sont intéressants pour le matin, etc., etc. Ce qui fait que quand on va se retrouver en dehors de ce forfait-là qu'on a pris, eh ben on va se voir certainement ponctionner un peu plus, comme on fait avec nos portables lorsque l'on dépasse le forfait.
Ça ressemble très étrangement finalement au forfait des télécommunications, où on peut imaginer avoir un forfait tant de kilowatts, 30 euros par mois, et tous les mois se retrouver ponctionné, qu'on ait consommé ou pas.
C'est ça.
Ça peut être quelque chose de cet ordre-là qui peut se...
Et dans quelques années, on se dira, on était bien tranquille avec notre compteur à l'époque.
Bon vieux compteur JP.
Voilà, à payer à l'unité. Voilà. À payer ce qu'on consomme,
c'est,
à
c'est
l'unité.
Ça, c'est ça.
Avec un relevé mécanique, un relevé visuel. Et finalement, un peu comme avec le téléphone. Parce que si on additionne les frais de télécommunication aujourd'hui, ils ont explosé. Mmh. On ne s'en rend même pas compte. Mmh. Et c'est une façon de nous ponctionner comme ça, de nous prélever la moelle.
Et on dira, ça fonctionnait bien avant. Mmh. Bon. Là, j'aimerais vous sensibiliser sur quelque chose qui m'est très cher. C'est que ce compteur, donc, avec tous les petits problèmes dont on a parlé, il y a un autre problème. Et il est de taille. C'est que en fait il y a des le CPL, c'est une technologie qui fonctionne donc avec des radiofréquences,
donc le système par réseau porteur,
c'est ça.
Un donc signal qui est ajouté au
ça.
Réseau électrique.
Tu as donc une porteuse donc 50 Hz, 60 Hz, peu importe, et dessus des signaux donc qui sont des informations qui véhiculent donc sur cette ligne. Et donc ces radiofréquences qui sont émises, elles sont classées 2B. Les 2B rentrent dans le petit groupe des radiofréquences qui peuvent être nocives pour la santé. Et une organisation, et pas des moindres, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, l'a définie le 31 mai 2011 comme potentiellement cancérigène. Ce qui fait que le potentiellement, c'est que, ben, comme vous l'aurez compris, c'est pas parce qu'on est à côté des ondes CPL que l'on va nécessairement avoir le cancer, mais on a le potentiel. Donc c'est un vrai...
Ça veut dire que le fil en lui-même, le rayonnement du fil
en fait sur la porteuse
peut avoir un effet néfaste.
Le signal qui est envoyé donc par le compteur émet toutes les 2 à 5 secondes, ce qui fait que toutes les 2 et 5 secondes il y a une impulsion qui est donc une radiofréquence, et c'est cette radiofréquence-là qui est potentiellement cancérigène. Ce qui fait que, écoutez bien, dans une installation, dans l'installation de la maison, on a une installation avec une phase, un neutre, une terre, ça passe dans les murs, ça passe dans le sol, c'est tout autour de nous, il y a des prises, on a des appareils électriques un peu partout. Toutes les 2 à 5 secondes, toutes ces lignes électriques dans nos maisons vont rayonner de cette fréquence. Et donc l'idée, c'est quand même... Donc l'OMS nous prévient, hein, donc potentiellement cancérigène. Et donc il est admis que le CPL est nocif uniquement s'il n'est pas installé avec des câbles électriques anti-rayonnement blindés. Donc ERDF n'a pas envisagé cette option de protection. Les câbles du réseau électrique n'ont pas été conçus à l'origine pour transporter des signaux haute fréquence. Cela crée une nouvelle source de pollution. Et il faut bien prendre conscience donc, que ces radiofréquences qui sont émises tout le long des circuits électriques qui nous entourent...
Donc là, tu parles bien de chaque côté du compteur.
Ah oui.
Du côté des fils électriques qui vont sur le réseau.
Tout
et du
fait.
Côté de la maison, de tous
tout
nos appareils
fait.
Et
tout
nos prises qui sont dans les plaintes et tout ça.
Voilà, ça veut dire qu'ils sonnent en fait le circuit électrique de la maison et après ils renvoient un signal qu'ils collectent pour la collecte.
C'est quoi. Ça, d'accord. C'est ça exactement. Et donc n'oublions pas non plus que donc, cette antenne émettrice qu'est l'appartement, parce que c'est une antenne émettrice, elle émet donc des signaux, des ondes, elle rayonne donc 24 heures sur 24.
Toutes les deux secondes.
Toutes les deux secondes.
Le réseau électrique par lui-même, on avait eu un invité il y a plusieurs années de ça, qui nous parlait de la nocivité déjà du réseau électrique en lui-même que, par exemple, il proposait de mettre sur les prises où il n'y a pas d'instrument, où il n'y a pas de lumière, de mettre un cache pour empêcher un certain rayonnement de la, de, enfin, un cache spécial, quoi.
Ouais. Après, voilà.
Dire qu'il, il parlait déjà d'une nocivité potentielle du réseau en lui-même.
Mais le 50 Hz, c'est.
Donc là, ça se rajoute. C'est plus que, parce que c'est pas grand chose par rapport à l'électricité qui circule dans les flux,
c'est
les tuyaux.
C'est une fréquence autre, qui est d'une autre, qui est toujours de la même nature, mais qui est sur donc une autre fréquence, qui s'ajoute donc aux autres. Le 50 Hz est relativement nocif lorsqu'on est très proche du 50 Hz. Donc si vous avez une lampe de chevet, que vous avez la tête proche d'une source électrique, avec une grosse puissance, donc par exemple, là je vous parlais d'une lampe de chevet, mais peut-être un peu plus, mais d'un moteur, par exemple, un petit moteur électrique à côté de vous, évidemment que le 50 Hz, par rayonnement, vous le subissez. Et donc, pour information, enfin moi j'avais pris quelques petites notes là, le 50 Hz, dans notre organisme, ça réduit notre organisme le taux d'hormones, donc les antioxydants comme la mélatonine, dont l'effet inhibiteur de croissance de cellules cancéreuses se trouve alors très diminué. Elles affectent les processus enzymatiques et biochimiques, affectent les rythmes circadiens, les défenses immunitaires, modifient physiologiquement la glande pinéale. Tout ça, c'est lié au 50 Hz. Un autre exemple.
C'est lié notamment au cycle du sommeil, quoi, tout ce que tu racontes.
Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Après, il y a d'autres fréquences. Là, on parle du 50 Hz. Mais...
Donc le 50 Hz, c'est ce qui est rajouté, on est bien d'accord.
Non, 50 Hz, c'est la porteuse, c'est le courant électrique.
C'est en lui-même, quoi.
En lui-même, d'accord. Tout à fait. Donc une ligne très haute tension, une ligne haute tension, les grands pylônes que l'on voit, c'est du 50 Hz qui est à l'intérieur.
Oui.
Pas toujours blindé, parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais au niveau de la haute tension justement sur les pylônes, justement j'aimerais bien savoir si c'est blindé ou pas. J'ai un petit peu ce doute-là. Mais
sur les tuyaux qui arrivent, les fils électriques qui traversent les rues, c'est du 50 Hz.
Oui, c'est du 50 Hz aussi. D'accord. Partout.
Et
partout,
dans
partout.
La maison, c'est du.
C'est du 50 Hz. Tout ça, c'est du 50 Hz.
Donc là, tu nous parles en dehors même de ce Linky et de ces impulsions là.
Voilà.
C'est 50 Hz.
Là, on est sur du courant traditionnel que l'on reçoit.
Ouais.
Donc l'électricité elle-même, déjà à la base, est pas bonne pour nous et on en a partout autour.
C'est ça, exactement.
Là, dans ma pièce, moi, je commence à avoir peur. Hein.
surtout là où on est, dans le studio, là, ça, ouais. Il y en a du câblage et de la puissance qui passe et des ondes.
Ouais, ouais. Tout à fait. Et donc, là, l'autre petit inconvénient, c'est que le CPL, donc là, on ne parle plus donc, du 50 Hz, on va parler du signal donc, qui est émis.
Donc le petit plus.
Voilà, le petit plus.
D'information.
Il est sur des bandes passantes qui ne sont pas négligeables. Qui sont sur des bandes passantes, attends que je retrouve ça, c'est du 1,6 MHz à 34 MHz. Ce sont des fréquences donc.
Donc beaucoup plus fortes en fréquence.
Qui sont plus hautes. Oui, plus hautes en fréquence.
Des signaux plus serrés quoi.
Mais qui sont plus faibles. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'impact, c'est plus léger comme fréquence. Donc on sera beaucoup moins impacté, il faut qu'on se trouve très près de ce signal-là. Mmh. Pour être vraiment, pour que ce soit très dangereux, ou pour que ce soit dangereux, il faut être très très près de ces sources-là. Mais ça a quand même une corrélation et il ne faut pas minimiser non plus le fait que nous sommes faits de cellules, nous avons tout le vivant et même les ions, donc les minéraux, tout ça, ça s'est construit avec les fréquences. Les fréquences tertiaires, la planète émet. Des fréquences, l'univers émet des fréquences, nous vivons depuis toujours avec ces fréquences-là. Et donc là, depuis peu de temps, on y ajoute, alors j'ai une liste assez effrayante, d'ondes électromagnétiques donc dites artificielles, donc comme par exemple la radionavigation, la radiodiffusion, la radio, donc la FM, la AM, la GO. La communication avec les sous-marins, la recherche des victimes d'avalanches, l'usage militaire, les pompiers, le SAMU, les taxis, les radios amateurs, l'aéronautique, les météos, les GPS, les GSM, les Wi-Fi, les télévisions, micro-ondes, liaisons satellitaires, radars, faisceaux hertziens, radars anti-collision pour automobiles, CDMA, DECT, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, WiMAX, pour ne citer que, tous ces exemples fonctionnent sur une fréquence déterminée et toutes ont une incidence sur notre environnement. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas habitué naturellement, on n'a pas ces fréquences-là. Elles ne sont pas dans
la nature.
Habituellement autour de nous.
C'est un peu comme le bisphénol, quoi. Qui est une molécule créée de toutes pièces et qui contamine absolument tout aujourd'hui.
C'est
puisque
ça.
Tous les organismes sont contaminés.
C'est ça. Et donc, encore une fois, l'homme joue à l'apprenti sorcier. Et c'est un petit peu dommageable parce que c'est vrai qu'il singe la nature. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? On verra plus tard, quoi. On verra sur notre santé, on verra. Et le malheur, c'est que voilà, j'ai une petite remarque là du professeur Gilles Brucker, qui est quand même le directeur de l'Institut national de veille sanitaire et qui s'exprimait ainsi il y a quelques années. L'enquête qui, donc là, il parle du CPL. Hein, l'enquête qui va être menée ne donnera pas de résultat avant 20 ans. Trouver une parade à cette menace me semble pourtant urgent afin que l'on comprenne les mécanismes exacts. Donc, pour l'instant, on utilise une technologie, mais au même titre que les radios, au même titre que tout que le GSM, que tout ça. Hein. Donc,
la problématique, c'est aussi de se poser des vraies questions. C'est à quoi ça sert, quoi. C'est comme transmettre des vidéos par téléphone. Est-ce que ça a vraiment une utilité de s'envoyer des photos, des vidéos à la con et... Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de nous balancer tout ça dans l'air, d'avoir toutes les installations qui s'ensuivent, d'avoir toutes les subventions du Conseil Général, machin, pour être dans les zones...
Pour le WiMax.
Oui, par exemple, oui, c'était ces antennes-là, c'était une catastrophe, quoi. Système qui marchait pas, qui était ultra subventionné par le Conseil Général, et puis au final,
Ils veulent continuer le schéma départemental numérique, le SDAN, l'aménagement numérique, ils veulent continuer avec ce type d'installation. C'est ça qui est le plus terrible.
C'est-à-dire qu'on fonce la tête baissée dans un truc qui, en fait, ne sert à rien, quoi.
Ça sert pour de l'activité, créer de l'activité, ça ventile des sommes colossales, ça permet de se faire lire.
Créer des richesses pour certains.
Créer de la richesse, voilà.
Ouais, complètement.
On va rejoindre notre deuxième sujet, là, bientôt.
Oui. Et donc, voilà, c'était en petit rappel, c'était que pour que les gens qui nous écoutent, hein, les auditeurs, sachent quand même que dès fin 2015, donc c'est maintenant, dans votre environnement proche, c'est-à-dire chez vous, dans votre habitation, vous serez traversé par une fréquence qui se situe entre 1,6 et 34 MHz, et une de plus, me direz-vous, et dont on ne sait absolument pas ce qu'elle aura comme effet sur nous. On verra ça dans quelques années. Voilà, je vais finir comme ça.
D'accord. Et aussi que cette installation, elle est obligatoire. Hein,
et oui, c'est ça que j'avais vu. T'as pas le droit de refuser, en fait. Tu peux pas dire, je garde mon ancien compteur, moi j'en veux pas.
Moi j'aime pas sinon, le rose. Les roses, non, ou bleu.
Sinon, ça serait pas dans une déviance carcérale. Hein.
tu ne peux pas refuser, non.
Et si t'es qu'il y a des électrosensibles ou des trucs comme ça.
T'as pas le droit non plus de l'être.
Ah, ouais, c'est vrai.
Et justement, sur ce sujet, hier j'ai eu Marie de l'association Carline qui est sensibilisée
cette association qui est basée à la Biocoop de Saint-Gaudens, qui était à l'origine de la création de la Biocoop et puis qui propose des conférences ou des ateliers autour des médecines alternatives notamment, et puis des sujets autour de la santé, de l'alimentation. Donc Carline, qui veut dire consommateur avisé, respectant les intérêts de notre environnement.
Voilà, et donc Marie voulait être avec nous ce soir au téléphone, donc elle ne pouvait pas parce qu'il y avait deux vidéos sur la COP21 à Saint-Gaudens, donc... elle y était, il y avait un petit débat là-dessus, donc elle y était. Mais elle m'a dit que prochainement, elle allait certainement inviter le réalisateur des petits documentaires, donc un documentaire qui s'appelle Zone Blanche, qui parle justement des personnes hypersensibles. Et donc certainement, elle va amener un débat par rapport à ça. Et je me joins à elle ou elle se joint à moi, on va voir un petit peu comment on va pouvoir organiser ça, mais pour justement faire un petit dossier pour aller voir les communes, aller voir les communautés de communes, et parce que en ce moment ils tournent un petit papier sur internet pour refuser justement ces compteurs, Et ça serait bien d'en parler justement aux maires, aux élus. Et donc, ben, si Angelo n'y voit pas d'inconvénient, on le mettra de toute manière, je suppose, sur le site. Mmh. Et puis sinon, vous pouvez aller sur le site donc, de Carline. C'est a2s.carline@wanadoo.fr. Et donc, où vous pouvez l'appeler, évidemment. Elle se fera une joie de vous répondre. Et donc, on essaiera de suivre petit à petit l'évolution de ces compteurs et de voir comment ça se passe. Et puis, essayer.
Parce que c'est déjà commencé, cette installation.
C'est commencé,
sur
ouais.
les nouveaux, sur les nouvelles, les installations neuves, par exemple, les maisons qui viennent d'être créées.
Oui, mais c'est parti, là. Depuis quelques semaines, là, ça y est, c'est envoyé. À savoir, enfin, moi, j'ai regardé pour moi et pour toi, Angelo. Moi, je serai impacté fin 2016. Donc, ils vont venir chez moi pour le changer. Et Angelo, ça sera un petit peu plus tard, en 2017. Donc,
j'ai le temps de me barricader.
Voilà. Mais en tout cas, tu auras eu mon expérience et j'espère que ça te sera bénéfique.
Parce qu'on nous a parlé de vidéos dans d'autres pays où ça s'est très mal passé.
Quoi.
Il y avait des gens qui voulaient absolument pas avoir ces compteurs et où ça a été assez violent. Quoi.
Il y avait
des images apparemment très percutantes de gens qui se faisaient mettre de force les trucs avec la police, etc.
Tout à fait.
Ça a commencé là. Ils s'entraînent déjà là.
Après, j'ai entendu dire qu'ils seraient postés à l'extérieur de l'habitation. Donc peut-être que quelqu'un peut venir te le vandaliser.
Ça peut arriver, parce que
c'est pas forcément ta faute, toi, s'il est cassé, il est dehors.
Ils peuvent faire rajouter une petite caméra dessus.
T'as plus d'électricité, par contre. Si
ah ouais.
Oui, c'est ça. Ah ouais. Dommage. Ça peut se faire chez le copain, mais.
Oui, c'est vrai, merde.
Et autre petite chose, il y a.
On peut le chanter.
Il y a plusieurs associations et assez sérieuses qui sont donc senties sensibilisées par rapport à ça. Et donc pour en citer quatre, il y a Robin des Toits. On mettra tous ces liens sur.
Ils y sont déjà sur la page de l'émission d'aujourd'hui, sur vivreencommunge.org. Vous avez déjà les liens que tu vas nous indiquer.
Excellent.
Les associations.
Donc Robin des Toits, c'est l'association nationale pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil. Il y a la Priartem qui est pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Il y a Next Up qui est l'organisation Next Up qui fait des vidéos très, très virulente. Il y a la CRIREM, qui est le Centre de Recherche et d'Information Indépendante sur les rayonnements électromagnétiques non ionisants. Et puis, il y a Santé Publique, qui relie un petit peu toutes ces associations-là et qui met à jour, justement, toutes les évolutions et les petits... Ben justement, c'est sur ce site-là que j'ai retrouvé la lettre que l'on pourrait donner aux communes et aux communautés de communes. Et donc, ça serait... pas inintéressant que ben, les auditeurs qui sont concernés par ça récupèrent le petit texte et aillent à leur mairie pour les sensibiliser, parce qu'on a quand même besoin de savoir, on en parle ce soir, mais on a quand même besoin de savoir ce qui se passe et voilà, ça serait quand même pas mal. Voilà, j'en ai fini moi avec ma petite thématique du jour. Donc
on va poursuivre en musique. Tu voulais nous proposer un autre morceau, Christophe?
Allez, go, on est parti. Ben donc ça serait Neil Young et le titre c'est Earth of Gold, avec l'accent s'il vous plaît.
On y va. We'll be right back.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.